Tribuna Desportiva. Feiras entre as 21 e as 23 horas.
É a segunda hora que começa agora. Temos connosco em estúdio o Arthur Gomes, antigo internacional francês, jogador do Stade Français. Estamos a falar de rugby, ele é de origem portuguesa, claro, como já percebeu. E também tivemos na nossa companhia o Hugo Aubry. Estou a falar ainda de rugby. Também o Miguel Martins, jogador da Seleção Nacional de Handball. Vamos continuar a falar de futebol e vamos ter a resposta tão desejada do Arthur Gomes. Estávamos a falar da final do Europeu de 2016. Então, o filho do Arthur tinha uma camisola de Portugal e o Henrique tinha uma camisola francesa.
Não, então na tribuna do jornalista. Não. Objetividade, jornalista profissional, nada.
Camisola de Portugal que é a escola da França, é isso?
É isso.
Conta lá, Arthur, então.
Então, como eu estava a dizer, o meu filho tinha.
Não levantaste o teu filho no ar quando.
Não, porque eu penso que o meu filho. Como a França já tinha dois campeonatos da Europa, não é? E já tinha uma taça do mundo. Eu penso que. E nós, em 2004, passamos mesmo a cheirar. E, donc, se calhar, puxou um bocadinho para Portugal para podermos apanhar a nossa
primeira. Mas quando Portugal marcou, ele ficou chateado?
Não ficou chateado. Nós ficámos muito contentes, mas penso que se a França tivesse marcado, era também a mesma coisa, mas trocou um pouco mais para Portugal, não foi? Donc, é isso, o Eder, agora, o Eder, nós fizemos uma estátua ao Eder em casa.
Mas acho que tenho um filho quase da mesma idade que o teu. Eu acho que eu não sou português, vivi lá em baixo, mas tu és capaz de fazer com o Eric 50-50, mas os nossos filhos acho que puxam mais para Portugal que para a França. Também puxam muito para o Cristiano Ronaldo.
Puxa mais para o Ronaldo do que para o Messi, se é a questão.
Não é questão. A juventude hoje segue em Portugal através do Cristiano Ronaldo.
É normal que fez e que faz ainda, mas bom.
Mas também deve gostar do Kylian Mbappé.
Ah, pode ser também.
Porque é do PSG também, por isso também.
Não, ele é do Marseille, uma outra.
Já está enganado mesmo.
Já não gosta
nada. Temos um problema. Quer dizer, o adepto do Benfica, que tem um filho que está torcedor do Porto e que vive aqui na região de Paris e torcedor de Marselha. Há uma coisa que
Eu penso que ele teve, quando foi novo, ter alguns problemas. Eu penso que nós educamos o mar a uma coisa, mas tem alguns problemas.
Gosta do azul, pronto. O que é o azul? Marselha é azul.
O azul e branco, é isso mesmo. Eu penso que é só isso.
Ele gosta da praia também.
Eu não gosto da praia, olha.
Vamos avançar, Marco. Estava a ter aí uma análise tua sobre o Rangers. Daqui a pouco vamos até à Escócia para ouvir o Steven Ticor, uma entrevista realizada pelo Henrique, ele que joga agora na Escócia também, no Clyde. Gostava de ter a vossa sensação em relação ao jogo do Benfica e do Sporting, já agora, se quiserem falar da Liga Europa. Um bocadinho.
Então, se vamos começar pelo Benfica, eu acho que foi um jogo em que se sai com um sabor não agridoce, mas azedo. Uma equipa que nem sei se em Portugal estaria talvez nos 5 primeiros. Sim, o Guimarães também, por exemplo, porque estamos a falar de uma continuidade. Aqui é um jogo, é como a Taça de Portugal, é como a Taça de França, pode haver aquele tipo de surpresas, porque o Rangers no campeonato nem faz sombra ao Celtic nos últimos anos. E o Celtic, onde está o Celtic? Acho que desapareceu das competições europeias, não estou em erro. E o Rangers ainda está. O Benfica estava numa situação do 5-0 em que mentalmente tinha que recuperar. Ele não fez assim tantas mudanças quanto isso, só tirou o Morato da equipa, principalmente.
Vinha de duas derrotas seguidas.
Sim, ainda por cima. Vinham de duas derrotas, tinham que mudar um bocadinho o chip e lutaram, porque estiveram a perder. Por uma vez estiveram ali a perder e conseguiram sempre empatar e ir atrás do resultado. A reviravolta foi interessante neste fim de semana, só que este fim de semana a equipa não teve nada a ver. Foi uma equipa muito mais jovem, que mostrou também muitas bonitas coisas. Acho que para a próxima temporada, mas eu não gosto de dizer isso, porque temos aqui no Paris Saint-Germain o Luís Henrique, que já está a preparar a próxima temporada e não acabou a primeira. E o Benfica não tem que pensar nisso, e os jovens têm que ser utilizados agora. Acho que Marcos Leonardo, acho que o Tiago Gouveia, o jovem português, acho que Florentino tem também que voltar ao 11. O Araújo também é interessante para substituir, por exemplo, o Otamendi quando está um bocadinho cansado. O Álvaro Carreiras, para mim, tem que começar a ser utilizado sobre o lado esquerdo, para se habituar ao campeonato, para ganhar ritmo. Então, vai ser complicado no Rangers. O problema é isso, é que jogaste o primeiro jogo em casa, em quando, ainda está, quando o Benfica ainda está um bocadinho com aquela cabeça no Porto, 5-0, e fazes um empate. Agora ir à casa do Rangers, há uma verdadeira pressão também naquele estádio, não é brincadeira, na Escócia.
Que digo ao Braga.
Exato.
Em Brooks Park.
Vamos ver, eu gostaria de ver o Benfica vencer. E vencer, por exemplo, 1-0 ou 2-1 seria suficiente, mas vai ser muito complicado por ser lá. Mesma situação para o Sporting. A jogar em casa é quando tu tens que vencer. Agora ir jogar à Atalanta, da última vez, eu acho que perderam fora e tinham também empatado em casa, não estou em erro, na fase de grupos.
Não perderam em casa e foram empatar.
Foi o contrário, quando o Atalanta já estava mais ou menos apurado e empataram lá. Ali, Rubén Amorim fez talvez o contrário, está mais a pensar no campeonato do que na Liga Europa, e acho que pouca gente poderá me dizer o contrário, visto que Joker estava no banco. Pode acumular 50 jogos, mas quando precisas, e vou voltar ao Paris Saint-Germain, porque eu gosto de picar um bocadinho o Eric, quando se vê o Kylian Mbappé é titular na Liga dos Campeões. Joga a Liga dos Campeões, joga todo o jogo, não há problemas com isso. No campeonato é diferente, mas o Sporting, se colocas o Joker, que é o teu melhor jogador, no banco, estás mesmo a mostrar que, para a Liga Europa, se passarmos melhor, se não passarmos... não faz mal, não faz mal, isso não importa. Rubén Amorim quer o campeonato, está muito próximo do alcançar. Cuidado, ainda faltam alguns jogos frente ao Porto, que pode também ser decisivo, frente ao Benfica. Então, Rubén Amorim, apostar tudo ali no campeonato, ok, porque não? Em relação ao Porto, para fechar, eu disse que o Porto ia conseguir o apuramento. E acredito cada vez mais que o Porto vai conseguir esse apuramento, porque o Arsenal venceu, está no primeiro lugar na Premier League, com o Liverpool, mesmos pontos, um ponto de vantagem sobre o Manchester City, está tudo bem encaminhado para o Arsenal ser campeão. E não vai perder forças à frente ao Porto. Vai ser a meio gás. Será que o meio gás consegue derrotar o Porto neste momento que está na boa dinâmica? Não acredito. Acredito num empate e o Porto está nos quartos.
E
vai jogar frente ao Paris Saint-Germain.
Para mim, o Benfica tem tudo também para passar, porque claramente, mesmo se os Rangers estão líder do campeonato da Escócia, não vamos comparar o que é agora o campeonato escocese. E até propriamente vamos ver aqui as palavrinhas do Steven Tico, que está a viver lá, e também ele acredita imenso que o Benfica pode passar. Depois, sobre o Sporting, eu também estou nesta ideia que eles vão deixar as competições europeias para justamente se concentrar talvez numa dobradinha com a taça e com o campeonato, e sobretudo que eles têm o destino entre os pés ainda, que depois da vitória da primeira mão frente ao Benfica e depois então ter os pontos de vantagem no campeonato. E o Porto talvez pode conseguir, porque eu também, quando estou a ver agora a confiança que tem este Porto, e também acredito que o Curso de Conceição ainda é capaz de dar um ânimo extra aos jogadores que vão no Emirates, talvez, para se demonstrar e também realizar algo que pode ser bom para o futebol português. E se lembrar que talvez o Sporting também já fez grandes coisas lá frente ao Arsenal. Quer dizer que os portugueses sabem ganhar lá. E o Porto pode encaixar então esta tradição e conseguir um facto importante de dar uma continuidade na Liga dos Campeões, e por que não juntar-se depois no Paris Saint-Germain para um jogo frente aqui no Paris Saint-Germain, no Parque.
É aí que vamos lá então ao Steven.
Vamos ao Steven Tico, aliás, o Tiquito, em Portugal. Ele que passou em Portugal no Naval 1 de Maio, no Tondela, no Belenenses. Ele que foi jogador no Hibernian de Edimburgo, na Escócia, também que agora no Clyde FC, e que agora está atualmente no Camelon Juniors, que é um clube amador, porque ele, com a idade, tem 37 anos, vão os anos, e está quase agora na reforma. E bom, ele ainda tem um olho sobretudo no campeonato escocês e também na Premier League e também no campeonato português, e por isso foi importante o ter, para ter justamente uma análise e um olho especial antes do jogo entre os Rangers e o Benfica.
Como é que está a ver então este encontro entre o Benfica e o Rangers, sobretudo da primeira mão, depois da primeira mão e do impacto entre as duas equipas?
Boa noite a todos. Espero que está tudo bem com todo mundo. Eu acho que o Benfica vai ganhar, mas vai ser um jogo complicado, porque a intensidade do Rangers em casa vai ser muito forte ao início do jogo. Mas se o Benfica acontecer, se o Benfica não está muito concentrado atrás e consegue não sofrer gol durante os primeiros 15 minutos, o Benfica vai ganhar depois disso, acho eu. Acho que isso é a chave do jogo.
Acho que o Benfica tem tudo justamente para talvez ir agarrar a vitória e tentar de finalmente continuar o seu percurso na Liga Europa?
Sim, Benfica tem tudo mesmo. Tem tudo mesmo, jogador de muito alto nível, jogador de experiência. Então, como eu disse, já vai ser um caso de entrar bem no jogo e de não sofrer gol ao início do jogo. Mas depois disso, se Benfica consegue fazer isso, vai ser tudo tranquilo.
Como é que estão os Rangers agora, desde que foi aquela equipa do Steven Gerrard, que já foi, voltou a ser campeão, é tudo? Será que os Rangers voltaram a ser os grandes Glasgow Rangers, como antigamente?
Desde a chegada do novo treinador, o Rangers está a fazer uma época fantástica. A chegada do treinador mudou o plantel inteiro, a maneira de jogar, a mentalidade. E sim, agora mesmo o Rangers está de novo como sempre era, um grande clube.
Por estar claramente na Escócia, também dá a possibilidade de talvez ver a Premier League. E acho que o Porto, o FC Porto, pode fazer um resultado frente ao Arsenal, sobretudo depois da vitória, 1-0 em casa. Será que o Porto é capaz de realizar finalmente a grande surpresa?
Sobre o jogo da Champions do Porto, claramente que o Porto pode passar, mas vai ser ainda mais complicado ao início do jogo que o Benfica, acho eu. Porque depois daquela derrota, todos os adeptos do Arsenal vão puxar e vão esperar uma reação top desde o início. E quando qualquer equipa joga contra uma equipa do Reino Unido, a diferença se faz sobre isso, a intensidade. Mas se Porto consegue de ficar bem, tranquilo e de não sofrer entre as primeiras 10 minutos, os primeiros 10 minutos, com certeza que depois vai ser mais fácil.
Agora uma pequena pergunta, sim, pessoal. Como é que está? Quais são as notícias já estão do Tiquito, do Steven Tico agora na Escócia?
Eu estou bem na Escócia, com saudades imensas do Portugal, mas estou bem, tranquilo, com a minha família, a minha mulher, as nossas filhas. Estou jogando ainda, mas desde essa época não estou a jogar mais no profissional. É um outro tipo de futebol, não está fácil, mas tranquilo. Eu joguei quase a época toda, fiz 2 gols, estou jogando meio campo e defesa central. Mas a vida está tranquila, estou a trabalhar também agora, porque como não sou profissional mais, estou a trabalhar durante o dia e estou jogando, estou treinando terça-feira à noite, quarta-feira à noite, e os jogos são sábado às 14h30. Mas estou bem, graças a Deus.
Obrigado por ter respondido assim as perguntinhas e esta análise sobre os Rangers. Um grande abraço e até breve.
Foi um prazer de poder falar mais uma vez com vocês. Saudades também, e daqui a pouco nos vemos em Paris, tá bom? Um grande abraço.
Então, Steven Tico, uma entrevista, claro, gravada antes da emissão, e o Tiquito que prometeu então de passar aqui. Com algumas surpresas, talvez, aqui na nossa tribuna.
Muito bem. Vamos continuar a falar de futebol. Daqui a pouco vamos ter uma grande entrevista com o Damien da Silva, que está na Austrália, no Melbourne Victory. Mas para já, vamos falar um bocadinho do campeonato francês. Arthur, est-ce que tu acompanhas pelo championnat français?
Oui, bien sûr, je regarde aussi le football en France. Je regarde un peu, j'essaie de...
Paris, Marseille?
Je sais Non, moi je suis pas. J'ai un club, j'ai pas 50 clubs moi. Donc, je regarde. C'est comme dans, c'est comme dans tous les championnats.
Et au Red Star.
C'est le FC Domon.
T'es un adepte, ça m'a fait
Domon. Monte.
C'est la ville d'Éric, non?
Non, non, je regarde tous les championnats et notamment le championnat français, bien sûr.
Oui, tu te régales donc avec les matchs de Paris.
Je me régale, c'est pas non plus l'extase. Hein. je vais pas non plus dire que c'est exceptionnel. Il y a eu des bons matchs, mais bon, là ils sont qualifiés en Coupe d'Europe, ce qui est assez logique par rapport à avoir eu un tirage plus que favorable. Mais bon, c'est pas l'extase et on va voir les prochains matchs, surtout le prochain tirage, on va voir tout ça.
Não posso dizer isso em relação à equipa que jogou com o Paris, porque o Benfica...
Ah, não, mas o Benfica não já era o Benfica, era...
Era a equipa de Carcavelos.
Ainda estavam na praia.
Marco, e tu? Campeonato francês e Henrique também, já agora. Não digas muito mal do Paris, porque senão... Sim, Henrique.
Não, pois, já matar...
Temos o Danilo para ouvir já agora, temos a reação do Danilo no final do jogo.
Tivemos a oportunidade de estar no jogo frente ao Reims, como muitos portugueses conseguem dizer.
É o Reims e o Lan.
É, exatamente. E, bom, foi um impacto, claro, do Paris Saint-Germain. Muitos vão dizer que é uma tristeza ver o Paris Saint-Germain estar assim no campeonato, mas lá está. Mesmo a jogar assim, quase com um ritmo tranquilo, tem 10 pontos de avanço e vão ser campeão, tranquilo. E então estou mais a preparar, talvez, agora... o jogo frente ao Nice na Taça de França, que é na próxima quarta-feira, e também a pensar na Liga dos Campeões, ou depois as pessoas já podem talvez apostar quando é que vai o Mbappé ser titular ou não, e eu posso garantir, por exemplo, que no jogo do Marseille ele vai ser titular no final do março, que frente ao Nice vai ser titular, depois não.
Notem.
Não pode não.
Tomem nota.
E depois vamos ver ficamos à espera do sorteio, saber quem vai calhar. É engraçado ver talvez o Real Madrid a saber como é que vai fazer o Mbappé, se calho um PSG Real Madrid.
Está doente.
Forfait.
Joker.
Ou um Porto, quase o Porto passa, por isso não, vai ser engraçado de seguir mesmo. Mas está, a realidade é essa. O campeonato da Liga 1 é fraco e permite o Paris Saint-Germain.
Fraco para o PSG?
Não, permite o PSG de estar com uma vantagem enorme e talvez finalmente o que é ilógico é o rendimento dos clubes como o Lyon e o Marseille, que estão mais para trás.
Houve uma pergunta qualquer de um média francês que disse porque que a França estava no Big Five. Mas pronto.
Não, mas aliás, eu sempre estou a dizer que não há primeiro um Big Five. Tens um Big Four, depois tens um lote de campeonatos e a França está atualmente o melhor campeonato dos outros.
Dos outros.
O melhor campeonato dos outros. Quantos clubes na Liga dos Campeões todos os anos? Há quase 10 anos que enviam para aí dois clubes e Portugal envia os três. Mas a França é melhor nas competições europeias.
Tens um ranking UEFA.
Sim, mas o ranking utilizas muito as pequenas equipas que são muito melhores do lado da França. A Ligue Europa Conference, a Ligue Europa, em que tens o Marseille, ainda tens o Lille joga contra o Sturm Graz, jogou contra o Kik Klaksvik.
Conseguiu empatar com as Ilhas Faroé. Foi a primeira vez que as Ilhas Faroé tinham conseguido um ponto, foi contra o Lille do Paulo Fonseca.
Pois, e Portugal tinha quem? Envia Santa Clara, nem a faltar ao respeito, mas envia Santa Clara, que quando fazem um bom campeonato perdem metade dos jogadores, envia as Vitória de Guimarães, perdem metade dos jogadores, envia Gil Vicente. Envias Chaves, envias... é muito complicado ganhar pontos quando só tens, no fundo, 4 equipas que marcam pontos para Portugal. 4 sobre 6. A França tem sempre as 6 a marcar alguns pontinhos e tem o Paris Saint-Germain que vai sempre hiper longe.
Marcos, estamos a desviar. Vamos ouvir... Vamos
se quiseres, mesmo se o Paris Saint-Germain e a análise do Henrique é muito interessante, 2 minutinhos. Bayern de Munique dizia isso todos os anos. Todos os anos o Bayern de Munique dizia: ah, sim, nós já ganhamos o campeonato, vamos andar a rodar a equipa no campeonato, vamos deixar descansar uns e outros. Nunca venceu. E depois acabou por vencer o Feyenoord Leite. Com sorte frente ao Paris Saint-Germain com o gol do Coman. Mas isso de rotação, de deixar descansar uns ou outros, nunca resultou, ou raramente resultou. É como os terceiros jogos, sabes, no europeu, quando se diz o terceiro jogo vamos deixar as estrelas descansar. E nunca vencem. A Argentina no Mundial teve que jogar o terceiro jogo a fundo. Foram campeões do mundo.
Pode ser uma realidade, mas depois também o Bayern de Munique não é só o Fenerbahçe que venceu, ganhou vários Ligas dos Campeões. Eu me lembro de ter comentado aqui com aquele
mas ganhava quando lutava o campeonato
com o
até ao fim.
Com o Robin. Quer dizer que o Bayern de Munique também é um grande clube, que é capaz de, pelo menos, sempre quase estar convidado, pelo menos nas meias finais. E por isso o Paris Saint-Germain também tem que aprender disto. Depois, eu não me tiro a sensação, a ideia que talvez, em caso de ver um clube da Bundesliga frente a um clube francês, talvez a Bundesliga ganhe. Até houve o caso do Lens frente ao Fribourg. O Fribourg não estava num grande momento.
Estava a ganhar 2-0.
E o Lens finalmente foi para casa. Agora este ano, ok, surge o Bayern Leverkusen. Ok, o Bayern Leverkusen.
Mas o primeiro do campeonato alemão, o Bayern Leverkusen, relembra-me quanto é que fez contra o Karabakh, que perdeu 4-2 em casa.
2-2.
Frente ao Braga. E então empatou.
Mas peraí,
o primeiro da Bundesliga empatou a 2
do Karabakh. Contra o Leipzig, se eles não mereciam, talvez, pelo menos ter uma decisão.
Já agora queria agradecer a
todos. Queres falar da arbitragem sobre o Real Madrid-Leipzig? Então não falas da arbitragem da Real Sociedade de PSG.
Já agora queria agradecer a todos aqueles que foram ao podcast. Rebentámos com o podcast esta semana. Foi a tribuna mais clicada, digamos assim, desde que existe.
E há quem diga, como o Armindo, que não se entende. Mas não é preciso entender o que nós estamos a dizer. É só batalha, exato.
Vamos lá, avançar o Daniel, vá.
Abre
a janela.
qual Daniel? O francês ou o português?
É sobre o jogo.
Então, não, o Daniel apareceu até na zona mista e em primeiro falou em francês com os médias de francês e ele deu a sua análise e a sua opinião sobre o jogo e este empate 2-2 frente ao Lens.
Vamos ouvir, Daniel.
On était un peu mieux. C'était un pas match avec beaucoup d'intensité. On a relâché un peu. Et on a débuté le match pas bien, mais après on a été bien. On a remonté le match. Et je pense jusqu'à là on était bien. Mais après, on a concédé un but avant le fini de mi-temps. C'est ça, c'était un premier mi-temps très 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 bien. Deuxième mi-temps, on a essayé d'être plus vite, de jouer plus vite, mais c'était encore la même chose que le premier mi-temps.
En championnat, c'est 3 matchs nuls de suite.
Il y a beaucoup de points d'avance, mais notre objectif, c'est toujours de gagner des matchs. Mais on sait que la Liga, il y a des matchs difficiles. Et celui-là, c'était un de ces matchs. On essaie toujours de gagner, mais il y a des fois que ce n'est pas possible.
Sans Kylian titulaire, c'est plus compliqué pour Paris Saint-Germain, sans Kylian titulaire?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il était là-bas aussi à Monaco et on a fait match nul là-bas.
Est-ce que tu sens un relâchement quand tu arrives à la Ligue 1? Un relâchement de l'équipe?
Non, ce n'est pas un relâchement, mais c'était un peu l'état d'esprit. Et il y a des fois qu'il y a des matchs après la Ligue Champion, c'est difficile de revenir, mais on essaye toujours, comme je dis avant, on essaye toujours de gagner des matchs. Mais il y a des fois qu'on rate des occasions, qu'on concède des buts facilement, mais ça passe. Il y a des fois que ça passe dans les matchs.
Daniel, trois matchs nuls avec Kylian au banc au remplacement. Tu penses qu'avec l'importance qu'il a, il devient jouer plus?
Parce que le coach, il a confiance à tous les joueurs. Kylian sur le banc, ça passe parce qu'il y a beaucoup de matchs. Il y a la Ligue des Champions, arrive la Coupe de France, des matchs importants. Et lui qui joue tous les matchs, il doit reposer aussi. Je pense que c'est normal d'être sur le banc des fois.
Beaucoup tourné ces derniers matchs. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de son turnover et à quoi ça sert? C'est quoi l'objectif?
C'est son philosophie de jouer. Et il veut que l'équipe se soit toujours préparée pour chaque match, n'importe qui. Alors, on doit être tous préparés pour chaque match. Je pense que c'était ça l'objectif.
Dernière question.
Un petit mot, tu dois être heureux pour Gonçalo, qui enchaîne les matchs, les minutes, et qui marque, et qui est présent. Je sais que tu lui as beaucoup accompagné dans tout ce qu'il a vécu ces derniers temps.
Oui, bien sûr, parce que c'était pas facile pour lui. Il ne joue pas souvent. Il a beaucoup de concurrence en attaque, mais quand il joue, il se donne à fond. Et maintenant, avec des buts et tout, ça donne un peu de confiance pour lui.
Então, Daniel Pereira, depois do empate 2-2 entre o Paris Saint-Germain e o Reims, e depois, lembrar que o Gonçalo Ramos marcou o segundo golo do Paris Saint-Germain, que também estava muito ativo no primeiro golo, que foi na própria Liga do Abdenhamid. E então, segunda paragem depois na zona mista com os portugueses do Daniel, e que começou a dar a sua opinião sobre o campeonato português.
É uma liga emocionante, o Sporting está muito bem, o Benfica. Benfica neste momento não está tão bem, mas ainda continua muito próximo do Sporting. O Porto com alguns jogos, alguns pontos em atraso, mas é sempre uma equipa que não desiste, uma equipa que tenta sempre estar muito competitivo. Acho que o campeonato ainda não está decidido, apesar do Sporting estar com um jogo a menos, penso eu. Mas há muitos jogos ainda e espero que seja um final de campeonato interessante.
Daniel, este ano aqui no Paris Saint-Germain tem claramente o objetivo de ganhar a Liga dos Campeões, vem também aí o Europeu. Se colocasse em cima da balança ganhar a Liga dos Campeões, o Europeu, por onde é que ias?
É sempre difícil escolher uma dessas competições, mas acho que nível de clube e seleção é sempre diferente, não posso escolher uma das competições, mas se der para ganhar os dois, ficaria muito feliz.
Daniel, a questão está cada vez mais perto. Sempre que está cada vez mais perto, conseguir esta Liga dos Campeões que faz Saint-Germain?
Eu acho que a Liga dos Campeões é pormenores. É uma liga muito difícil, muito, muito competitiva, em que tens também ter a sorte do jogo e a sorte de estares bem preparado também. Acho que estamos preparados, estamos a fazer uma boa época. Mas como eu digo, não é fácil ganhar a Liga dos Campeões e temos que ir jogo a jogo para poder sonhar mais alto.
O que é que representa a abraçadeira do Paris Saint-Germain?
Representa muito para mim. Como já disse, não é fácil impor-se aqui no Paris Saint-Germain. É um clube difícil, é um clube em que os adeptos exigem muito dos jogadores, a direção. Vemos cá sempre muita concorrência e ser um dos capitães neste clube é um motivo de orgulho.
Em termos de pressão também, falaste aí, não é fácil impor-se no Paris Saint-Germain. Como é que também tens visto também o crescimento do Gonçalo Ramos nesta altura?
Eu acho que é normal, ele chegou, a adaptação é sempre difícil. Neste momento eu acho que ele está muito bem em todos os níveis, fisicamente, mentalmente também, que é muito importante. Está a jogar mais jogos e vem fazendo golos, e isso dá-lhe confiança também para aquilo que vem no futuro. Eu acho que ele só tem a melhorar com este desempenho que ele tem feito neste ano.
Daniel Pereira, capitão do Paris Saint-Germain, depois do empate 2-2 frente ao Reims.
Já voltamos dentro de alguns instantes.
Tribuna Desportiva. Rádio Alfa apresenta o 20º Festival da Gastronomia Portuguesa.
Três chefes vindos especialmente de Portugal e da região centro apresentam-nos uma cozinha autêntica e com sabor.
Viaje pela região de Leiria e prove o seu famoso leitão à boa vista, o arroz de marisco, o cabritinho da Serra de Ar e outros deliciosos pratos.
Venha almoçar ou jantar à Sala Vasco da Gama em Valentim entre 15 e 24 de março.
Mais informações e reservas pelo telefone 01 45 10 98.
Le Portugal est en finale. Dimanche 17 mars, l'équipe nationale du Portugal joue la finale du Rugby Europe Championship à 21h au stade Jean Bouin à Paris. Oujlo Bouge défie l'équipe de Géorgie pour décrocher le titre de champion d'Europe 2024. Venez supporter les coéquipiers de Thomas Appleton et Manuel Cardoso Pinto et vivre une grande fête du rugby portugais. Ne manquez pas cette occasion unique. Réservez vos billets dès maintenant sur billetterie.stade.fr.
Rádio Alfa. Tribuna Desportiva.
Avançamos agora para a entrevista de semana. Hoje, esta segunda-feira, uma grande entrevista com o nosso bem conhecido Damián da Silva, que chegou a ser um dos nossos quase padrinhos da emissão.
Damián da Silva, que joga agora na Austrália, no Melbourne Victory, que está na luta para o campeonato da Austrália, e tivemos a oportunidade de falar com ele que agora está a viver uma experiência única no outro lado do mundo.
Bonsoir Damien, petite question toute bête pour lancer la conversation. Déjà, comment ça va du côté de l'Australie et de Melbourne?
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aussi. En tout cas ici en Australie, écoutez, ça va très très bien. L'expérience est vraiment géniale, que ce soit l'expérience de vie ou l'expérience footballistique. Tout est vraiment top, donc je suis très content.
Est-ce que pour l'instant, l'aventure elle est telle que vous l'espériez, en tout cas que ça soit que l'aventure se passe pour l'instant fidèle à vos idées et vous avez retrouvé tout ce pourquoi vous avez décidé d'aller à l'autre bout du monde.
Oui, c'est vrai que j'ai toujours voulu découvrir un autre championnat en termes de dans ma carrière professionnelle et j'ai eu l'opportunité de découvrir l'Australie. Il y avait deux choses en fait. Il y avait le côté de découvrir un nouveau football, un nouveau cadre professionnel, et en même temps de découvrir aussi un nouveau pays, une nouvelle culture. Et c'est vrai que l'Australie, pour le coup, c'est un pays très loin qu'on connaît très peu en France. Donc j'étais très curieux de découvrir un peu comment on vivait ici. Et c'est une très bonne surprise. Comme je l'imaginais, oui, c'est vrai, même si j'ai pas mal de découvertes qui sont très bonnes. Il y a un super mood de vie, les gens sont super cool, plutôt agréables. C'est vraiment sympa ici. La vie, c'est vraiment cool en fait. Et ça, j'apprécie vraiment. Le football, bien évidemment, il y a une certaine pression, mais c'est que ça reste quand même relativement cool par rapport à ce qu'on peut vivre en France. Et ça, c'est très agréable en tant que joueur de foot professionnel. Donc voilà. Et aussi, on profite de la vie à côté. Donc c'est vraiment génial.
Bon, pour l'instant, la saison, c'est assez passionnante hein, du côté du Melbourne Victory avec pas mal de victoires, enfin un bon début de saison, et qu'ensuite on a une période un peu plus compliquée, mais en tout cas voilà, on s'accroche pour jouer les premiers rôles. Mais quel est l'objectif à la base du club au début de saison?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Melbourne Victory, c'est le plus grand club d'Australie, et c'est le club qui a le plus de fans, de supporters, donc forcément l'attente est grande, et on attend que le Melbourne Victory devienne champion, tout simplement. C'est l'objectif du club, c'est l'objectif des supporters aussi et des joueurs aussi. Cette année, on fait une bonne saison, on est dans les premiers, même si on connaît une période un peu plus difficile ces derniers matchs, mais je pense qu'on finira dans les premiers, on jouera le titre quoi qu'il arrive. Et puis voilà, c'est l'objectif, c'est finir champion. Donc voilà, ça c'est super intéressant pour moi personnellement, parce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis venu aussi dans ce club-là, parce que on m'avait dit que c'était un club qui pouvait jouer le titre. Et voilà, je me suis dit c'est toujours intéressant de gagner un titre, peu importe dans quel pays. Donc voilà, moi, mon objectif personnel, c'est le même que le collectif, c'est d'être champion de la fin de saison. Donc on va tout faire pour. Mais en tout cas, on est une belle équipe, on prend du plaisir à jouer ensemble cette saison et on prend du plaisir. Donc c'est très important.
Et quel est le niveau du championnat australien, si on doit le comparer?
Alors je trouve que c'est assez difficile de comparer hein, en termes de niveau le jeu australien ou le jeu français. J'ai envie de dire tout simplement c'est différent. Les Australiens, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'ils regardent beaucoup les matchs du championnat anglais, et du coup leur jeu le ressemble beaucoup au championnat anglais, c'est-à-dire un jeu direct, un jeu qui va vers l'avant, les matchs sont ouverts. Il y a beaucoup d'actions. D'ailleurs, nous, le championnat australien, je crois que on est dans le championnat où il y a le plus de buts. Donc je peux vous dire, en tant que défenseur, il y a beaucoup d'actions à défendre. C'est plutôt agréable. Je pense que les fans, les supporters, ils kiffent bien ce type de jeu. Quand on vient voir un match, je pense qu'on a envie de voir des actions. Et pour le coup, en Australie, c'est très. Les matchs sont très agités. Il y a beaucoup de rebondissements. Donc c'est vraiment sympa à voir. Mais ouais, c'est différent quand même. En France, on est beaucoup plus rigoureux, j'ai envie de dire, sur l'aspect tactique. On va plus prendre le temps de la préparation, de la construction de l'action. Là, c'est beaucoup plus direct, donc c'est différent. Donc c'est pour ça que c'est dur à comparer.
Et qu'est-ce que ça fait à ce moment-là d'être tout de suite, en tout cas pris de passion et d'avoir recueilli en tout cas tous les suffrages autour de vos performances hein. avec notamment des plus déjà des titres de meilleurs joueurs, et puis avec notamment des belles émotions encore, comme il y a plus d'une semaine déjà de cela. Donc avec un doublé dans les dernières minutes, dans un match incroyable à domicile, et un doublé aussi qui a permis à l'équipe de revalider une victoire qui fuyait depuis quelques temps, mais aussi de marquer à quel point déjà, c'est en quelques mois, en à peine un an et demi en tout cas, de marquer déjà autant l'histoire du club.
Bah oui, ça fait toujours plaisir quand ça se passe bien, et c'est vrai que moi mes débuts se sont super bien passés l'année dernière. Je suis arrivé dans une équipe en difficulté en termes de classement, en termes de jeu, et d'un point de vue personnel, les 2-3 premiers mois ont été bons, et du coup les fans m'ont plutôt bien aimé, et j'ai eu la chance d'être élu meilleur joueur de la saison en ayant fait 3 mois, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de récompense, même si je préfère toujours avoir la récompense collective, et je préfère, comme cette année, qu'on soit champion que d'avoir cette récompense là comme l'année dernière, mais ça montre juste que je me suis donné à fond. Simplement, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire je me suis donné à fond, et on m'a beaucoup vu, parce que comme je l'ai dit juste avant, les défenseurs sont mis en avant ici parce qu'il y a beaucoup d'actions où l'on doit défendre, et donc du coup je me suis montré assez rapidement dans l'équipe et au niveau des supporters. Donc tant mieux quand ça se passe bien comme ça, et une bonne intégration. Après, c'est vrai que ici au niveau des joueurs aussi, l'intégration elle a été géniale, parce que c'est une bonne ambiance dans l'équipe, il y a des bons mecs, donc c'est toujours plus facile de s'intégrer et de bien jouer. Forcément, l'un ne va pas sans l'autre, donc voilà. Il y a aussi le fait que je me sens très bien ici avec ma femme, je suis très heureux ici, donc quand on est heureux dans la vie, je pense que ça aide aussi à être heureux sur le terrain et être épanoui. Donc ça, c'est toutes ces choses-là font que je m'épanouis dans la vie sur le terrain, et que je prends beaucoup de plaisir, et que voilà, aussi avec le recul, l'expérience que j'ai, ben je profite au maximum, et je sais que c'est pas mes premiers matchs, donc voilà, je joue les matchs à fond et je kiffe tout simplement, donc ça c'est génial. Et concernant le doublé, oui, c'est vrai que ça m'est arrivé il y a 2-3 matchs maintenant, et c'était un moment génial, parce que déjà marquer 2 buts, c'est dur, et pour un défenseur d'autant plus, et c'est 2 buts qui donnent une victoire, et ça pour moi c'est le plus important, parce que quand on marque à la fin, ça permet à l'équipe de remporter 3 points. C'est un sentiment, je trouve, supérieur, et encore plus à domicile, avec les supporters, l'ambiance des supporters qu'il y a eu en fin de match, elle était incroyable. Donc ça a été une belle expérience, un souvenir qui restera gravé en tant que joueur professionnel. Donc c'est un super souvenir, et maintenant l'objectif c'est d'en marquer d'autres, d'aider l'équipe à marquer d'autres buts aussi, parce que quand on joue le titre, il faut aider l'équipe au maximum aussi à marquer des buts. C'est pas simplement que défendre. Un bon défenseur aujourd'hui est capable de marquer sur corner, donc ou sur coup de pied arrêté. Donc c'est aussi mon objectif de marquer d'autres buts sur la fin de saison.
Oui, parce que pour les gens qui nous écoutent, Damien a marqué tout simplement le 800e but dans l'histoire de son club, donc du Melbourne Victory, le 800e but dans l'histoire en championnat. Donc ça fait que Damien laisse déjà son empreinte aussi dans l'histoire. Et qu'est-ce que ça fait justement de laisser déjà cette marque-là en Australie?
Je suis fier de ça, je suis fier de laisser cette petite trace là dans un club ici en Australie. J'essaie partout où je passe de laisser ce que je peux laisser, tout simplement. Et là, c'est un petit clin d'œil de marquer le 800e but, c'est bien. Forcément, c'est bien parce que ton nom apparaît sur le 800e but du club, donc c'est toujours sympa. En tout cas, je suis très content de ça, très fier. Après, le plus important pour moi, c'est qu'ils se souviennent de moi, en tant que joueur, pas seulement de ce but-là, mais de ce que je donne au quotidien lors de tous mes matchs. C'est ce que j'ai toujours voulu faire lors de ma carrière, c'est qu'on se souvienne de moi en bien, parce que je me donne tout simplement à fond et que je fais tout pour que l'équipe gagne. Donc c'est pour moi le plus important.
En tout cas, on sent qu'il y avait cette envie-là, hein, même quand on échangeait, que ce soit du côté de Caen, de Rennes, même avant ça, Clermont au début, quand de toutes ces périodes-là, même à Lyon. Donc il y avait ce besoin peut-être un jour de connaître quelque chose à l'étranger, c'est le cas. Mais est-ce que maintenant, donc après avoir connu cette expérience-là à l'étranger, il y a ce besoin peut-être déjà de revenir? Ou peut-être pourquoi pas de continuer, pourquoi pas au Portugal?
Oui, c'est vrai que J'avais besoin, je pense, dans ma carrière, de connaître un championnat étranger. J'ai toujours eu cette envie-là, cette curiosité-là. Et voilà, ça s'est présenté en plus tard que prévu. Mais bon, ça fait partie de la carrière, ça fait partie de la vie. Je l'ai prise à ce moment-là et j'en suis très content. Donc, s'il y a une autre opportunité de découvrir un autre championnat, franchement, pourquoi pas. Après, vous savez très bien, vous me connaissez, que je serais très heureux de pouvoir découvrir le championnat portugais, découvrir en tant que joueur. Je le connais en tant que spectateur, mais pas en tant que joueur. Et ça reste un objectif pour moi, parce que je suis encore en forme, honnêtement. Je pense que je peux jouer encore quelques années. Et voilà, on ne sait jamais dans le football. Et si l'opportunité se présente de pouvoir jouer au Portugal, franchement, moi, je la saisis direct. Donc, c'est aussi une possibilité. Je me l'exclus pas. Et ça serait un doux rêve qui se réaliserait. Donc voilà, moi, j'ai toujours cru en ces rêves-là. On ne sait jamais, mais il a encore temps. Mais en tout cas, jouer au Portugal, pourquoi pas. Après, on verra si c'est notre championnat, ce sera notre championnat. Je prends les choses comme elles viendront, tout simplement, et choisirai ce qui est le mieux pour nous. Donc, voilà.
Est-ce qu'avec votre coéquipier, en tout cas Roderick, coéquipier et capitaine hein, de Melbourne Victory, avec Roderick Mérind, il y a déjà eu ces échanges-là aussi pour parler un peu du Portugal?
Oui, avec Roderick, on s'entend très bien. D'abord, faut dire que c'est déjà une très bonne personne. Je m'entends très bien avec lui en dehors du terrain. Et en plus de ça, c'est un très bon joueur. Il a de très grosses qualités défensives. Je l'aime beaucoup en tant que joueur, en tant que personne. Et c'est toujours agréable de jouer avec un joueur avec qui on s'entend bien. Sur le terrain et en dehors. Donc pour moi, c'est génial. Je prends du plaisir avec lui. Et forcément, on parle beaucoup du championnat portugais ensemble. Je lui ai posé quelques questions. Je lui ai même demandé, pour tout vous dire, s'il avait des contacts au Portugal pour essayer d'aller trouver un club là-bas, après l'Australie. Donc voilà, oui, on échange beaucoup sur le championnat portugais. Je sais qu'il a joué à Benfica et il sait que je suis pour Porto. Forcément, je vais devoir le chambrer par rapport à notre grosse victoire sur le Benfica. Je pense qu'il y en a qui sont tristes, mais moi je suis très content. Donc voilà, en espérant que Porto revienne dans ce championnat. Mais en tout cas, cette belle victoire, elle fait du bien. Donc tant mieux pour Porto.
Qu'est-ce qu'on peut maintenant vous souhaiter, tout simplement? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette saison et puis pour la suite de votre carrière?
Ce qu'on peut me souhaiter, je pense, là, pour la saison avec le Melbourne Victory, bien sûr, d'être champion, comme je l'ai dit, car je suis venu pour ça. Je suis pas venu en vacances entre guillemets. Je suis venu aussi avec un projet sportif. Donc c'était celui-là. Mon but, c'est de ramener un titre australien en France. Ça serait vraiment génial pour moi. Donc ça, c'est la première chose, et après d'avoir le meilleur projet possible pour moi. Donc je sais que voilà, à 36 ans, on n'aura pas 150 000 projets qui vont se présenter, mais d'avoir suffisamment des projets intéressants pour faire une belle décision, une nouvelle expérience. Voilà, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Et ça se trouve, ça sera en France. Hein, donc voilà, je ferme pas de porte. Ça peut être ici en Australie, ça peut être dans un autre pays, ça peut être en France. Je ferme pas de port, donc juste de trouver un bon projet excitant où je me sente bien. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut me souhaiter.
Est-ce que il est facile de, enfin, qu'est-ce qu'il est le plus facile de trouver en Australie? Un pastel nat, un cannelé ou de la rosette? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te manque le plus que tu trouves pas en Australie et que qu'il y avait en France, voire au Portugal?
Oui, d'ailleurs, je trouve ça surprenant. Il y a beaucoup des pastels de nata ici. Et d'ailleurs, j'habite en face d'un marché où ils en vendent énormément. Il y a aussi des cannelés, mais je trouve beaucoup plus de pastels de nata que de cannelés. Ils sont pas mal en plus. Je crois qu'ils appellent ça des tortas portugaises. Voilà. Après, il y a beaucoup de cuisines du monde dans les marchés. On peut trouver vraiment les cuisines européennes, les nourritures européennes. Donc c'est bien. C'est très ouvert l'Australie. Ils sont très ouverts sur la cuisine du monde. Donc voilà, la cuisine portugaise est présente en Australie, bien évidemment et heureusement.
Bom, Damien, on va la faire comment? On va la faire en portugais. Muito obrigado, Damien, por ter falado aqui mais uma vez.
De nada, com prazer.
Damien, qui a été l'un de nos parrains sur ces dernières saisons de Tribune Desportiva. De et thanks a lot. We have to talk in English. Maybe the English is good, Damien? No? Tell me. Do you speak better English than Portuguese?
Yes, now I speak English as well. So it's good to speak another language. Falo português também.
Fala melhor português do que inglês ou francês também ainda melhor? Espero bem que sim, ok? Mais un grand merci, oui, vraiment, Damien, en tout cas, pour ces quelques petites minutes. Et puis, bon courage, en tout cas, pour la suite. Et forcément, comme on dit, on sera attentif. Hein, on va suivre ça. On va se tutoyer. Bah, tu sais très bien qu'on suit ça attentivement encore. Donc, à très vite sur les antennes de Radio Alpha et de Tribune Sportive. Un abraço.
Muito obrigado. Et, of course, Força Porto.
Mas bom, o Damien da Silva, então, jogador do Melbourne Victory, que está a tentar de conquistar o título na Austrália. E para quem quer seguir o Damien, pode ir no YouTube, que tem os jogos livres. E então aparece de manhã, de vez em quando, um pequeno almoço. Basta um pequeno almoço. Durante o pequeno almoço, de ver um jogo do Melbourne Victory.
É isso, é às 11, não é?
De vez em quando, às 7h30, 9, por aí.
Muito bem, vamos regressar ao rugby. Estamos na parte final da nossa emissão de hoje. Vamos continuamos. O Arthur fez o prazer de ficar connosco até ao final da emissão. Vamos voltar a falar dessas finais que vão ter lugar então no Estádio João Bueno, próximo domingo. Portugal defronta a Geórgia a partir das 21h. Arthur, d'un point de vue technique, physique,
tactique,
comment on peut voir ce match-là, Portugal-Géorgie?
Bah, la Géorgie, on le connaît tous, hein, c'est un gros défi physique avant tout. Ils vont tenter, on sait que devant, c'est un très gros paquet, très physique. Mais ces dernières années, quand même, ils commencent à avoir quelques belles velléités. Ils ont des joueurs intéressants derrière. Mais je pense que dans un premier temps, il va falloir répondre aux défis physiques de leur paquet. Pour pouvoir ensuite pouvoir un petit peu les faire courir, on va dire les faire un peu déplacer un petit peu comme le jeu qu'on a fait lors du mondial, hein, c'est-à-dire un peu les fatiguer en déplaçant le ballon, mais tout en sachant que devant il va falloir être très très performant sur tout ce qui est phase de conquête et tout ce qui est sur tous les regroupements.
Est-ce qu'il risque d'avoir un petit sentiment de revanche, après c'est le nul à la Coupe du Monde?
Revanche, oui. Bon, ils vont vouloir marquer un petit peu les esprits, parce que dans leur je pense qu'ils sont restés un petit peu avec ce nul en travers de la gorge, parce qu'ils s'attendaient sûrement pas à ce que le Portugal puisse développer et puisse un petit peu les embêter et pouvoir je dirais ils l'auront un petit peu. La Géorgie, ça fait quelques années qui s'annonce comme la nation la plus performante. Et là, sur ce mondial, le Portugal leur est passé un petit peu devant. Et effectivement, à mon avis, ils vont vouloir marquer le coup.
Est-ce qu'on s'attend à un score fleuve ou quand même parce que bon, c'est vrai qu'en 2023, donc sur cette même finale, donc il y a un an, c'était 38-11 pour la Géorgie. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à un scénario aussi compliqué pour le Portugal ou justement faire confiance à la dynamique actuelle?
Ah bah, ça va être compliqué d'une manière ou d'une autre. Ça va être compliqué si tu réponds pas aux défis physiques des Géorgiens, tu vas en prendre 40, hein, c'est clair. Donc c'est maintenant les Portugais le savent, ça j'ai pas besoin de leur dire, donc c'est à eux un petit peu de répondre à tout ça, mais ça peut vite piquer, oui, si tu lâches un peu le match, tu peux en prendre 40 rapidement, ouais.
Et l'expérience aidante, ça peut aussi te permettre de gérer justement peut-être une phase d'attaque compliquée avec...
Ah oui, c'est clair qu'aujourd'hui, avec ces matchs du mondial, c'est toujours plus intéressant. Il y a un peu d'expérience et je pense qu'ils vont mélanger un petit peu une équipe un peu mondialiste avec des jeunes recrues, avec des jeunes qui viennent d'arriver un petit peu. Donc j'espère que ça sera homogène et qu'ils pourront être efficaces, oui.
Et donc, il y avait, durant le mondial, ce fameux 16e homme qui était présent dans les stades. Est-ce qu'il faut l'espérer leur dire, venez nombreux à Jean Bouin, en plus, le stade est sympa, on y est bien?
Ah, le stade est très sympa, je vous le confirme, et j'espère que, sachant qu'il y a beaucoup de Portugais, et puis que la France réussit bien au Portugal ces derniers mois, donc, venez tous à Jean Bouin, dimanche, 21h, et il y aura des pêches à Nathan, non?
os jogos que antecedem o Portugal-Geórgia, não sei se tens aí o programa já agora à mão, não, mas vamos ter, sim, por exemplo, um...
Não é por exemplo, eu
vamos
tenho
ter uma Roménia-Espanha.
Não, começamos ao meio-dia com a Polónia-Bélgica, é 14h45 Holanda, enfim, País Baixo, Alemanha, e depois 18h15 Roménia-Espanha, tudo no mesmo sítio, tudo em João Boan, toda a gente, quer dizer, vai haver muitos adeptos de todas as nacionalidades, vai ser um...
Portanto, vai ser uma espécie festa da segunda divisão do rugby da Europa, no fundo, não é, Arthur?
C'est ça, c'est le, on va dire le championnat B du tournoi Europe B, donc voilà, qui va désigner son classement final ce week-end sur 4 matchs d'affilée au même endroit. Donc ça va être, c'est une première, je crois. Ouais. C'est une première et tous les rugbyman qui aiment le rugby, ils peuvent passer un dimanche magnifique.
Et quand on sait qu'il y a les troisième mi-temps qui sont importantes, là avec 8 matchs comme ça. Ça va être laquelle, troisième, qui va être importante de quel match?
Ils n'auront pas le temps. Les premiers, ils feront la troisième. La troisième fera les quatre matchs. Quoi. C'est à partir de 23h, il y aura la troisième mi-temps de tous les matchs. Tout est au même endroit et c'est Paris, c'est facile pour tout le monde. Donc venez nombreux dimanche à Jean Bouin.
Comment s'approche un peu de la fin? Moi, j'ai toujours une petite question qui est un petit peu polémique. Et je la pose à Arthur, parce qu'on parle de ces nations B. Mais il y avait une nation qui était quand même intéressante et qui montait petit à petit, qui maintenant est interdite de jouer. Est-ce que ça peut être désolant ou pas? Je parle évidemment de la Russie, qui avait un certain niveau, qui paraissait très intéressante en rugby, hein, oui, alors oui, que c'est pas non plus le sport national. Maintenant, ils sont interdits tout, donc...
En fait, je crois... Ouais, effectivement, la Géorgie, ces dernières années, c'est compliqué. Moi, je veux pas rentrer dans ce débat. C'est vraiment un débat compliqué et j'ai pas envie de rentrer. Voilà, donc je sais que la Russie faisait des choses intéressantes au niveau rugbystique. J'espère que ça va peut-être revenir. Je sais pas comment ça, mais effectivement ces dernières années ils avaient une équipe qui était. Mais la Russie a toujours eu du rugby. Hein. C'est vrai que le foot c'était leur credo, mais ils ont toujours eu du rugby et on sait jamais ce que l'avenir sera fait. Mais ils avaient fait quelques matchs intéressants effectivement.
Muito bem, vamos para as apostas agora.
Allez, on y va.
Aposta de rugby, vas-y. Polônia e Bélgica.
Não, mas on va peut-être faire que. Portugal, quand même.
Tu veux pas faire? Non, oui, Georgie, Portugal.
On est tous, je pense qu'autour de la table, tout le monde espère le Portugal, mais bon, je pense que sincèrement, ça va être un match très dur. Voilà, il va falloir, comme le Portugal est un petit peu, change un petit peu, son effectif est un petit peu évolué, on a perdu quelques joueurs, on est en train d'en intégrer d'autres, alors que les Georgiens ont un effectif qui est plus, on va dire, qui est plus homogène et qui se connaît mieux. Je dirais que si, le match perdure un petit peu, qu'il soit un petit peu serré, on a une petite chance. Faut pas qu'on laisse les Georgiens prendre le score. Voilà.
Allez, moi je vais sur un 22-18 pour le Portugal.
Et aussi une provache.
Regarde, on est sur les paris, hein, donc il y a personne qui donne.
David,
tu parles?
Si, t'as algum type de résultat?
Non.
Bah écoute, si on parie sur du rugby, le pari le plus intéressant c'est match nul.
Voilà, c'est où tu gagnes le plus. Match nul, c'est où tu gagnes le plus.
Sinon, Portugal.
Voilà, on va tous partir sur le Portugal en espérant que tout se passe bien.
Exactement.
Allez, on va juste faire un petit pari là par rapport au foot, en commençant par le Marco. Rangers-Benfica. Non, Arsenal-Porto.
Empate à uma bola.
Porto.
Arsenal, mais pas au Porto.
Match nul, ouais, c'est bien match nul.
Na quinta-feira, Rangers-Benfica.
2-1 Benfica.
Benfica.
7-0 Benfica.
Villarreal-Marseille.
Visco Vilana. Okay. Empate.
Vitória do Villarreal, mas passa ao Marseille.
Ouais, Villarreal gagne, mais Marseille passe.
Ouais, 2-1 Villarreal. Ouais.
Atalanta-Sporting.
2-1 Sporting.
Sporting.
Atalanta.
Match nul.
Merci à tous.
Boa noite.
Fica concluída mais uma edição da Tribuna Desportiva. Estaremos consigo para a semana. Fique bem na companhia da Rádio Alfa. Foi um prazer estar consigo.
Tribuna Desportiva.